Bonjour Olivier Ezrati.
Bonjour French Web.
Vous êtes expert French Web, on vous connaît déjà un petit peu. Vous êtes aussi l'auteur du guide des startups high-tech en France, qui est édité, mis à jour deux fois par an en moyenne, je crois que c'est ça. Et vous êtes auteur récemment d'un ouvrage qu'on trouve en ligne sur votre blog oezrati.net qui s'intitule « Les clivages de la présidentielle 2012 sur le numérique » où vous faites justement une large synthèse des différents aspects des programmes des candidats qui concernent le numérique. Et si on vous interroge, Olivier, aujourd'hui, c'est pour parler des réponses données par les candidats, les principaux candidats, pas tous les candidats, des réponses données au collectif du numérique hein, qui les a interpellés sur différents points, justement. Est-ce qu'on peut d'abord se réjouir que certains candidats aient répondu ?
C'est une bonne chose, mais elle est un petit peu tardive. Je crois que l'appel du collectif du numérique date de début mars ou de fin février. Et là, on est à même pas une semaine du premier tour et on a l'une des dernières réponses en l'occurrence celle de Nicolas Sarkozy. Donc le numérique n'est pas un sujet prédominant dans la campagne, c'est clair.
C'est le bilan qu'on peut en tirer, donc. Hein.
Oui, mais comme beaucoup de sujets assez pointus, hein, une campagne électorale présidentielle, elle porte sur des sujets très généraux, l'emploi, l'immigration, la justice, la dette de l'État, des sujets de ce type-là. On a un petit peu parlé de réindustrialisation, mais le numérique était vraiment en arrière-plan de tous ces sujets, c'est clair. Comme plein d'autres sujets plus spécialisés, comme dans la santé ou même certains de sujets qui concernaient l'éducation.
Il y avait en gros six questions, six points sur lesquels le collectif du numérique a voulu des réponses assez claires, des orientations assez claires de la part des candidats. C'était des points clés pour vous, Olivier ça a été
oui,
bien choisi.
Il couvre assez bien le sujet du numérique pour la campagne. Bon, il faut peut-être préciser qui est ce collectif du numérique quand même. C'est un regroupement d'associations professionnelles, de syndicats patronaux, qui jusqu'à présent était allé en ordre dispersé dans la campagne présidentielle. Il y a notamment le Syntec, l'AFDEL, et quelques autres syndicats qui avaient déjà émis des propositions. Donc en fait, ils se sont mis d'accord, plus ou moins sous le pilotage du Syntec numérique, pour en gros fédérer leurs différentes propositions et transformer ces propositions plutôt en interpellations avec ces six thèmes. Et on peut considérer que les réponses des candidats sont des réponses aux industriels du secteur du numérique. Et il faut peut-être mettre en opposition à cela d'autres interpellations, notamment celles qui ont émané d'associations du logiciel libre, qui, elles, représentent un petit peu moins l'univers de l'entreprise et plus un univers plus citoyen ou plus interne, par opposition.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui en France un vrai lobby du numérique ?
Il y a un lobby, effectivement, mais il était jusqu'à présent assez dispersé. J'ai fait l'inventaire, justement, dans mon document, des dizaines d'associations professionnelles et syndicats patronaux qui pullulent dans le domaine du numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est un univers assez riche et complexe. Il y a des industries dans le matériel, dans le logiciel, dans les contenus, dans le commerce en ligne, dans la télévision, dans la photo, dans la presse, enfin, dans le livre. Il y a dans la musique aussi. Donc, il y a énormément de syndicats qui représentent chacun leur silo de métier. Il y a même un syndicat professionnel de salariés, le MUNSI, qui a fait parler de lui récemment. Donc, jusqu'à présent, ces syndicats avançaient en ordre relativement dispersé. Et là, dans le collectif numérique, au moins une partie d'entre eux sont réunis, ce qui est une bonne chose.
Globalement, ils sont tous plus ou moins d'accord pour dire que oui, le numérique est vecteur de croissance. Ils rappellent les bons chiffres, justement, de l'emploi, 700 000 emplois créés depuis un certain temps déjà. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné et de la part de qui, justement ?
Ce qui est pas étonnant d'abord, c'est qu'ils soient d'accord sur l'intérêt du numérique, heureusement, parce que le candidat qui dirait que le numérique c'est pas intéressant, il se grillerait relativement vite. Donc, on a beaucoup de platitudes dans ces réponses, hein, de ce point de vue-là. D'ailleurs, les chiffres qui sont avancés eux-mêmes sont d'ailleurs sujets à caution, parce que l'étude McKinsey, sur laquelle s'appuient tous les politiques aujourd'hui, en disant qu'il y a eu 700 000 emplois créés. Bon, 700 000 emplois, c'est à peu près le nombre d'emplois d'informaticiens qu'il y a en France depuis 10 ans et qui a pas trop bougé. Donc les chiffres sont quand même relativement à prendre avec des pincettes. Mmh. En fait, une partie des chiffres sont liés à l'accroissement du nombre d'emplois qui sont indirectement liés à l'Internet, notamment dans tout ce qui est la supply chain dans le commerce en ligne, tout ce qui est livraison, tout ce qui est donc transport, livraison, stockage. Ça a créé des emplois, mais ça a déplacé des emplois de la distribution classique vers le commerce en ligne. Donc bon, les chiffres, moi, je les prendrai avec des pincettes, hein, d'un certain point de vue. Alors par contre, pour ce qui est des éléments, des propositions, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ces documents. Il y en a quelques-unes quand même qui sont apparues. Il y en a une qui a créé une sorte d'agence de l'innovation de l'État dans les propositions de Sarkozy, et qu'on retrouve sous la forme d'un haut commissariat chez François Bayrou, qui d'ailleurs ne sont que deux noms donnés à des organisations qui existent déjà dans l'État. Et c'est la direction générale de la modernisation de l'État qui a déjà cette mission de moderniser l'État avec le numérique. Bon, il y a un changement de nom et une volonté d'être peut-être un petit peu plus avant-gardiste de ce point de vue-là. Mmh. On n'a pas de proposition équivalente chez François Hollande. Et pour cause, je pense, puisque une des conséquences de certains projets informatiques, c'est de réduire l'emploi de fonctionnaires. Et il y a quelques endroits dans l'État où il y a un problème de productivité lié à un outil informatique qui n'est pas très moderne. C'est vrai d'ailleurs, en particulier dans la police et la justice. Et là, du côté de François Hollande, on est relativement discret sur le sujet. Donc la grande difficulté, c'est comment moderniser l'État au niveau informatique sans pour autant donner l'impression qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires. Mmh. Ou peut-être donner l'impression qu'on va les réallouer éventuellement. Au niveau des points communs, on trouve beaucoup de propositions autour des PME. C'est pas très surprenant. On voit François Bayrou reparler, comme en 2007, d'un Small Business Act à la française.
Absolument, oui.
Bon, c'est un peu... un marronnier, hein, ça, dans politique, d'autant plus que le Small Business Act est à géométrie variable selon qui en parle. Bon, déjà, le Small Business Act américain, d'origine, hein, qui a été voté dans les années 50 aux États-Unis, est très mal compris par nos politiques. Les politiques croient que le Small Business Act américain repose essentiellement sur une commande publique fédérale qui contingente 25% de cette commande vis-à-vis des PME. Mais le problème, c'est que le Small Business Act américain, c'est beaucoup plus que ça. Ça intègre des éléments de financement des PME, des éléments de garantie de financement des PME, qui d'ailleurs existent déjà en France par ailleurs. C'est-à-dire qu'une grosse partie, je dirais presque la moitié du SBA, existe dans le périmètre d'Oseo en France. Mm-hmm. Donc en fait, l'essentiel des propositions qui relèvent du SBA, venant des politiques, surtout Bayrou, c'est cette histoire de commande publique. Je pense que la commande publique, c'est intéressant, mais il ne faut pas en faire non plus une obsession. Parce que le problème qu'ont les startups aujourd'hui, c'est pas forcément la commande publique, c'est aussi la commande privée, notamment la relation avec les grandes entreprises. Il y a eu le pacte PME qui visait à améliorer depuis pas mal d'années, hein, depuis je crois 2004 ou 2005. Il y a eu quelques progrès faits dans ce domaine-là. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut passer par la voie législative pour améliorer ces relations qui sont pas très très bonnes dans l'ensemble, ou est-ce qu'on peut compter sur une sorte d'autorégulation via les instances patronales pour que les relations entre les grandes boîtes françaises et les startups fonctionnent mieux. Et ce côté privé n'est pas traité par les politiques, et pourtant il me semble aussi, si ce n'est pas plus important que ce qui vient de l'État.
François Hollande, de son côté, en parlant PME, propose de mobiliser l'épargne des Français en créant un livret d'épargne industrie justement pour financer ces PME. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est possible?
Pourquoi pas? Bon, créer un livret d'épargne, la question qui se pose, c'est quelle est la capacité d'épargne des Français? Déjà, elle est relativement bonne par rapport au reste de l'Europe, hein, et les Français épargnent plutôt pas mal. Donc c'est une forme de réorientation de l'épargne. La question qui se pose, ça va être quel rendement a cette épargne. Aujourd'hui, les livrets classiques d'épargne sur des faibles montants, ils ont un rendement garanti. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont méconnues par les politiques. Par exemple, le rendement du livret A aujourd'hui, qui est compris entre 1,5 et 2%, je crois que c'est 1,75%, mm-hmm. C'est un rendement qui, en fait, vient du fait que, d'un côté, la moitié des investissements de livret A vont dans les HLM qui ont une rentabilité négative, et l'autre moitié est investie à la bourse dans des obligations, donc dans les boîtes du CAC 40. Le paradoxe étant que donc, quand les politiques, notamment à gauche, dénoncent les horribles bénéfices des sociétés du CAC 40, ça irrigue en fait différents types d'investisseurs, mais dont le livret A. Donc il y a un paradoxe ici, c'est que d'un côté on considère que il faut encourager les gens à investir, mais de l'autre, on est bien obligé de s'appuyer sur les boîtes du CAC 40 qui sont profitables pour rendre ces livrets profitables. Alors si on crée un livret d'investissement dans les PME, c'est clair que ça sera un livret avec un rendement négatif aujourd'hui. Donc ça pose un problème, ça veut dire que ce livret de l'industrie, pour qu'il ait un rendement apparent correct, il faudra le panacher avec des investissements plus sécuritaires dans l'immonétaire, de l'obligataire et des entreprises de taille critique, pas que dans les PME.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les propositions des différents candidats? Eva Joly propose par exemple financement par le crowdfunding, la finance participative, collaborative. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau aujourd'hui dans les différentes propositions?
Il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau. Si un des points qui émerge, d'ailleurs aussi bien dans les propositions de Sarkozy que celles de Hollande, c'est une sorte d'unification des systèmes de financement des startups. On sait que le système de financement actuel est relativement compliqué. Il est structuré autour de deux pôles principaux qui sont d'un côté Oseo avec ses différentes branches et de l'autre côté la Caisse des dépôts qui contrôle notamment le Fonds national d'amorçage, le Fonds pour le numérique, France Investissement et le FSI. Donc ça fait 4 à 5, plus CDC Innovation et CDC Entreprises. Donc en fait, il y a cinq outils d'investissement à la Caisse des dépôts et il y a des outils de prêt côté Oseo. Ça rend la relation entre les startups et l'État relativement complexe. Et donc autant Hollande que Sarkozy proposent d'unifier ce système-là. Alors du côté de Hollande, on propose de regrouper ces organisations en une seule pour créer une notion de guichet unique physique, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule organisation, tout en s'appuyant sur leur région pour décentraliser une partie de la décision d'investissement. Et du côté de Sarkozy, on penche plutôt vers la création d'un site web et d'une unification au moins dans le point d'entrée pour les startups, mais pas forcément en changeant l'organisation d'Oseo et de la Caisse des dépôts qui sont derrière. Donc les différences sont assez techniques finalement entre les deux principaux candidats.
Quel est le point de tous ces enjeux listés par le collectif du numérique qui va de l'enjeu de la transformation numérique à, en passant par la formation, la modernisation de l'État, etc. Quel est à votre avis le point qui va être le plus défendu par le candidat qui sera élu? Si on doit faire un pronostic.
On ne sait pas qui va être élu, même si on a une petite idée. Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question, elle est plus liée aux gens qui vont être nommés finalement à des postes importants autour du numérique. Ce sont eux qui vont déterminer par leur leadership et par leur mode de pilotage la manière dont l'État va s'occuper du numérique. On voit bien à quel point le rôle de Nathalie Kosciusko-Morizet, puis de Éric Besson, enfin d'abord d'Éric Besson, puis NKM, puis Besson, ont été importants, même s'ils ont été critiqués, dans le pilotage de la stratégie de l'État. Et ce sont eux qui, de fil en aiguille, ont poussé Sarkozy à s'intéresser au numérique. Alors qu'au départ, il s'y intéressait de manière relativement distante. Hollande, il ne s'intéresse pas beaucoup au numérique. Tous les gens qui le connaissent et qui m'ont relaté des discussions avec lui ont dit qu'en gros, c'est pas un sujet qui le passionne. Il a des gens dans ses équipes qui s'y intéressent et ce sont eux qui vont jouer un rôle important. Il faut toujours regarder qui est derrière le candidat. C'est-à-dire que les personnalités qui sont derrière les candidats, ce sont eux qui rédigent les propositions. Par exemple, quand on regarde les propositions des petits candidats, elles sont souvent dans l'air du temps, notamment en suivant les tendances qu'on trouve dans le monde de l'open source, par exemple. C'est souvent lié au fait qu'il y a des spécialistes militants qui sont derrière ces candidats-là et qui sont liés eux-mêmes à ces différentes associations.
On vous remercie, Olivier Ezrati. On retrouve justement les synthèses, les différentes analyses que vous avez apportées sur cette campagne sur votre blog oezrati.net. Merci beaucoup.